7h. Et elle va vous donner gratuitement d'ailleurs les nouvelles. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur cette résolution hier du Conseil de sécurité de l'ONU, la première votée à la majorité qui réclame un cessez-le-feu immédiat à Gaza, suscitant la colère d'Israël.
Aux États-Unis, Donald Trump a vu le montant de son amende pour fraude fortement réduite.
Et puis alors que les ministres européens de l'agriculture commencent à détricoter le volet environnement de la PAC, la FNSEA ouvre son congrès à Dunkerque. Après ce journal, Marguerite Caton, ce sera votre question du jour.
Nous parlerons de la Guyane, comment lutter contre l'orpaillage illégal.
Le vote du Conseil de sécurité de l'ONU hier n'aura pas arrêté la guerre à Gaza, mais il aura été le premier à voir une majorité de pays adopter une résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Une première et une décision saluée par la grande majorité de la communauté internationale. C'est la première fois en effet que depuis le début du conflit, les Américains s'abstiennent, ce qui en dit long sur leur changement de position face à leur allié traditionnel, Israël, dont la réaction ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dans la foulée du vote que l'abstention américaine nuisait à l'effort de guerre et à la libération des otages. Il a ensuite annulé la venue d'une délégation israélienne aux États-Unis pour discuter des conditions de la poursuite de la guerre. Sur place à Jérusalem, les précisions de Thibault Lefèvre.
La colère israélienne a étonné les Américains. Selon plusieurs diplomates, le gouvernement Netanyahou était informé de la volonté des États-Unis de ne pas opposer de veto au projet de résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. Il n'y aurait donc pas eu de surprise, mais une réaction forte, calculée, qui répondrait à des considérations de politique intérieure. Déjà la semaine dernière, Benjamin Netanyahou avait appelé ses députés à rester soudés contre Joe Biden et sa volonté de freiner l'offensive israélienne sur Rafah. La question, c'est désormais de savoir combien de temps le Premier ministre va pouvoir brandir l'épouvantail américain pour maintenir l'unité de sa coalition, au risque de perdre une alliance indispensable à la sécurité du territoire israélien. Les États-Unis ont joué hier la carte de l'apaisement. Ils ont fait savoir, par une communication du Département d'État, qu'Israël respectait le droit international, que ce soit dans sa conduite de la guerre ou la livraison d'aide humanitaire. Et la Maison-Blanche a assuré que l'abstention américaine n'était pas un changement de cap.
Pour le secrétaire général de l'ONU, très critique avec Israël depuis le début du conflit, ne pas appliquer cette résolution votée hier serait impardonnable. Antonio Guterres, qui était à Rafah il y a quelques jours, mettant en garde Israël contre tout déplacement massif de population. Hier, il se déplaçait en Jordanie, dans le camp de réfugiés palestiniens de Wadad, dans un contexte où, si l'action d'Israël est de plus en plus critiquée, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, l'est aussi. C'est donc pour la soutenir et la responsabiliser que le secrétaire général est venu constater son action sur le terrain. Le récit de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
Visite des salles de classe d'une école de l'UNRWA ou encore rencontre avec des professeurs employés de l'agence onusienne. C'est en plein cœur du camp de réfugiés palestiniens de Wahdat au sud d'Aman qu'Antonio Guterres a rappelé l'importance de soutenir et de responsabiliser l'UNRWA qui fournit des services de santé et d'éducation à plus de 2 millions de réfugiés palestiniens dans le royaume. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
I trust that working all together.
Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire pression sur la communauté internationale pour qu'elle soutienne l'UNRWA et lui permette de poursuivre son travail auprès des réfugiés palestiniens en Jordanie et dans tous les pays où elle est active.
À son arrivée sur le camp, Antonio Guterres a reçu un accueil très positif de la part des réfugiés lundi matin. Une heure avant son arrivée, devant l'école de l'UNRWA, plusieurs dizaines d'habitants du camp l'attendaient, pancarte à la main, appelant à maintenir l'UNRWA coûte que coûte. Amina Halif, réfugiée du camp de Wahdat, est l'une d'entre elles.
En tant que réfugiés, nous dépendons de l'UNRWA pour l'éducation et la santé, et nous ne pouvons pas supporter les coûts financiers si son travail est interrompu.
Antonio Guterres a conclu sa visite dans le royaume par une rencontre avec le roi Abdallah II de Jordanie, au cours de laquelle il a rappelé la nécessité d'accélérer les opérations d'acheminement de l'aide sur Gaza pour éviter une famine imminente affectant des centaines de milliers de Palestiniens.
Il promet de gouverner avec humilité et transparence. C'est ce qu'a déclaré hier Bassirou Diomaye Faye, assuré désormais d'être le nouveau président du Sénégal après que le candidat au pouvoir, Amadou Ba, a admis sa défaite hier. L'ancien opposant, encore en prison il y a peu, a remercié le président sortant, Macky Sall, pour avoir finalement respecté la transition démocratique au terme d'un processus houleux. Et puis en Russie, l'enquête se poursuit, en tout cas officiellement, après l'attaque terroriste qui a fait 139 morts et 182 blessés vendredi soir dans une salle de concert de Moscou. Contrairement à ses premières déclarations, Vladimir Poutine a évoqué hier le terrorisme islamiste et son acronyme Daesh, tout en continuant de pointer le doigt vers l'Ukraine. On y reviendra dans le journal de 8 heures. Gagner du temps, la tactique est simple, mais elle fonctionne pour l'instant pour Donald Trump. À force de recours, le candidat à la présidentielle américaine pourrait bien échapper à la plupart de ses procès prévus avant la présidentielle. Hier, il a tout de même appris que l'un d'eux, l'affaire Stormy Daniels, se tiendrait le 15 avril prochain. Quoi qu'il en soit, la stratégie du républicain semble fonctionner. Il est visé par 4 procédures pénales et 3 n'ont pas encore de date ferme de procès. Depuis New York, les précisions de Loïc Loury.
Le procès du 15 avril est injuste. Donald Trump l'a répété hier après son audience à Manhattan. Le milliardaire, c'est inédit pour un ex-président, sera jugé au pénal dans l'affaire des pots de vin versés à Stormy Daniels, le tout en pleine campagne électorale. Ce qui se passe dans notre pays est une honte. C'est de l'interférence électorale. On n'a jamais vu ça. Mais ça arrive souvent dans les pays du tiers-monde, les républiques bananières. Si je n'étais pas bien placé dans les sondages, ça n'arriverait pas. Il n'y aurait pas tous ces procès. Une chasse aux sorcières, dit-il, malgré la clémence de la justice. Le même jour, dans le dossier de sa condamnation pour fraude, forcé de trouver 450 millions de dollars pour éviter la saisie de ses biens, Donald Trump a vu cette amende réduite à 175 millions, toujours trop selon lui. Il y a des criminels violents qui assassinent, des dealers de drogue qui se baladent librement et font tout ce qu'ils veulent, mais non, on s'en prend à Trump pour quelque chose qui n'est même pas un crime. Mais attention à ne pas passer pour moins riche qu'il ne prétend l'être. J'ai beaucoup d'argent, précise-t-il, et j'ai bâti une super compagnie.
7h07 sur France Culture, la suite du journal. Dan-Laure Chouin, les ministres de l'Agriculture se réunissent aujourd'hui sur la PAC après les demandes des agriculteurs européens en colère.
Oui, ils devraient détricoter pour les uns, assouplir pour les autres les règles environnementales de la PAC pour tenter d'apaiser le secteur. À Bruxelles, au même moment, les agriculteurs ont prévu de défiler pour accentuer la pression. Et c'est le jour où débute à Dunkerque le congrès de la FNSEA, principal syndicat agricole français, qui a mené les manifestations du début de l'année. Ce sera aussi le premier congrès du nouveau président, le céréalier Arnaud Rousseau, qui a en vue les prochaines élections. Catherine Pétillon.
Cette année, pas d'élection au sein de l'organisation syndicale. Arnaud Rousseau a été élu l'an dernier à sa tête pour 3 ans. Mais la FNSEA compte bien profiter de ce congrès pour préparer d'autres scrutins à venir, à commencer par les élections européennes. Leur résultat sera déterminant pour la politique agricole commune, premier budget de l'Union européenne. Selon les projets politiques, ses ambitions et l'orientation des aides pourraient varier. Mais c'est loin d'être le seul sujet sur lequel le syndicat espère peser. Hervé Lapi, le secrétaire général de la FNSEA.
Dans le programme des candidats, on a le fameux Green Deal. Comment est-ce qu'on leur visite, la stratégie de la ferme à la fourchette, restauration de la nature, le règlement sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc on attend un peu une vision stratégique des candidats aux élections européennes, mais aussi une vision stratégique sur la production, comment est-ce qu'on relocalise la production européenne, et puis aussi comment on la protège. On ne peut pas faire des accords de libre-échange à tout va en mettant de l'agroalimentaire en compensation du numérique, de l'automobile, de l'aviation. Et je pense que ce qu'on attend, c'est qu'on ait une vraie perspective par rapport à ces échanges internationaux pour protéger les agriculteurs européens, notamment dans ce qu'on nous demande en termes de réglementation, de normes sur les sujets environnementaux.
La FNSEA espère coaliser la colère qui s'est exprimée à travers l'Europe. Elle a d'ailleurs invité à son congrès des syndicalistes des pays voisins. En France, le syndicat compte aussi surfer sur la mobilisation des derniers mois, cette fois pour les élections dans les instances représentatives, les chambres d'agriculture. Élections prévues l'an prochain, la FNSEA espère rester majoritaire grâce à son alliance avec les jeunes agriculteurs.
des moyens exceptionnels déployés partout sur le territoire avec 4000 militaires supplémentaires placés en alerte. Ce sont les annonces hier de Gabriel Attal après l'attentat de Moscou revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Et puis en visite en Guyane, Emmanuel Macron a promis hier de continuer le combat contre la pêche et l'orpaillage illégaux, deux défis cruciaux de ce département français frontalier du Brésil. On y reviendra dans la question du jour. La proportionnelle est à nouveau en question dans le débat politique. C'est l'une des revendications traditionnelles du MoDem. Or, son président François Bayrou a été réélu à la tête du parti centriste ce week-end. Il a donc réaffirmé la volonté de mettre en place cette réforme électorale pour laquelle il milite depuis des années. Le sujet sera au menu aujourd'hui de la réunion de groupe des députés Renaissance et demain à l'étude d'un amendement MoDem en commission des lois. La proportionnelle à l'Assemblée, longtemps promise, jamais réalisée. On y revient avec Rosalie Lafarge.
Condition du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron en 2017, promise dans le programme présidentiel, la proportionnelle n'est pour l'instant restée qu'une volonté affichée. Mais le patron du parti centriste veut y croire, le moment est venu.
J'ai la conviction qu'après tant et tant de difficultés pour faire entendre l'évidence, alors une fenêtre s'est ouverte et que nous allons y arriver.
L'ouverture de la fenêtre, la présidente Renaissance de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, en est à l'origine.
J'ai la certitude que cette juste représentation est l'un des meilleurs moyens de ramener nos compatriotes vers les urnes. Je suis partisane d'un système mixte, alliant le passage à la proportionnelle dans les départements comptant 11 députés et plus, et le maintien du scrutin majoritaire dans les 90 autres départements.
Attention à ne pas créer deux types de députés, ceux qui sont ancrés localement et les autres, prévient-on au MoDem, avec la satisfaction quand même de voir l'ouvrage remis sur le métier. Ce n'est pas la priorité, balaie déjà un pilier de Renaissance. C'est pourtant essentiel pour éviter la victoire des extrêmes, corrige un centriste convaincu que l'idée gagne du terrain dans le principal groupe macroniste. Après tout, insiste le ministre MoDem Marc Fesneau, on l'a promis dès 2017.
Le meilleur conseil que je puisse nous donner pour être crédible, c'est d'appliquer.
Si certains doutent encore de la pertinence du sujet, François Bayrou suggère de poser la question directement aux Français par référendum. Yaël Braun-Pivet prévoit d'abord de consulter les représentants des groupes et partis avec la volonté de voir un texte aboutir d'ici le début d'année prochaine. Si le gouvernement ne s'en charge pas, la patronne de l'Assemblée n'exclut pas, selon son entourage, qui en souligne le caractère exceptionnel, de le déposer elle-même.
On termine ce journal avec une danse qui se démocratise au point qu'elle est désormais accessible aux enfants, malgré les clichés. Le pole dance, dont l'image a longtemps, trop longtemps, selon ses promoteurs, était sexualisée. Reportage dans un studio de danse parisien où la barre de pole dance est accessible dès l'âge de 7 ans. Talita Thierro.
Ici, pas de tenue affriolante, des shorts et des t-shirts. Alors à vos barres, comme le dit Claire Francisie Ducré, la professeure.
On monte trois fois.
Mais dans la cour de récré, Louise, 13 ans, avait du mal à assumer ce sport.
Comme je suis au collège, les gens ils m'insultent un petit peu. Ils me disent que je suis une pute. Parce que je sais que c'est un sport qui est la plupart du temps dans les cabarets et tout. Ça n'a rien à voir. On n'a pas des petites tenues bizarres et tout. Genre. C'est juste qu'ils ne connaissent pas. Eux, ils sont plus dans les clichés.
D'autant plus si vous êtes un garçon, au lieu de faire du basket ou du football, Yanis, 11 ans, fait de la pole dance depuis ses 6 ans.
Je me redécouvre tout le temps quand je fais de la pole dance. Je me regarde dans le miroir et je me dis, mais comment je fais ça, moi? Et maintenant, je me retrouve à faire des roulades arrière et tout ça, ça me redonne confiance en moi. C'est pour ça que maintenant, quand les gens ils me disent la pole dance, c'est un sport de filles, des fois, ça m'exaspère. Franchement, ils sont énervants, ceux qui disent ça. Et bon. Moi, je les regarde, je leur dis, je m'en fous de tout ce que vous disiez. Je suis fière de faire de la pole dance. Franchement, c'est un honneur.
Les barres sont froides, allez, c'est pas grave, on s'accroche, c'est le cas de le dire.
Au bout d'une heure d'entraînement, les bras ont quelques rougeurs, mais Chloé, 10 ans, a une astuce.
Ça s'appelle un grip, c'est des fois on a les mains un peu humides et quand on met ce produit, ça empêche de glisser.
Avec la pole dance, les enfants travaillent la coordination, la souplesse, le gainage, mais pour gommer le côté sexuel de cette danse, Laurence Ilsom, championne du monde 2010, a dû se battre.
J'ai longtemps été à rougir en disant je fais de la pole dance. On va me prendre pour encore une stripteaseuse. Et par exemple, les talons. C'est quelque chose qu'on a été un petit peu obligé d'effacer au tout début de la pole dance. Les strings, il a fallu prouver au monde en fait que la pole dance n'était pas du striptease.
Le nombre d'écoles de pole dance ne cesse d'augmenter. On en dénombre plus de 300 en France.
Le temps de ce mardi, plutôt couvert et pluvieux, localement orageux, l'Hérault est en vigilance orange vague, submersion, un peu de soleil de la Lorraine aux Alpes du Nord, au plus chaud compté entre 9 et 12 degrés cet après-midi, 14 à 16 vers la Grande Bleue. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture, Guillaume Herner.
Moi, je vais arrêter la course, je vais me mettre à la pole dance. Vous m'avez absolument convaincu, Anne-Laure.
Très bien.
La question
j'attends de voir ça, hein.
Du jour de Marguerite Caton, c'est dans quelques secondes, Guyane, comment lutter contre l'orpaillage illégal.